La compagnie des auteurs, c'est parti. Elle est conçue et préparée par Corinne Amar, Gauthier Ami, Alan Vanessa Prévost, Didier Pinault et Lise Combe. Derrière la console aujourd'hui, c'est David Federman.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui lundi, une nouvelle semaine, un nouvel auteur. Nous passons les 4 jours qui arrivent en compagnie de William Faulkner. On pourrait presque dire qu'il est le plus français des écrivains américains, non pas à cause de ce qu'il décrit, ces histoires du sud des États-Unis qui sont le contraire de Saint-Germain-des-Prés, ni à cause de la manière dont il les écrit, cette narration à la temporalité éclatée, révolutionnaire pour son époque, mais plutôt parce que c'est en France, pays qu'il aimait particulièrement, qu'il a été le mieux accueilli et le mieux considéré de son vivant. Nous aurons l'occasion d'y revenir toute cette semaine. Alors que sort en Pléiade un nouveau volume de ses œuvres, ses nouvelles en l'occurrence, je recevrai demain pour nous en parler celui qui en est l'artisan, l'universitaire émérite François Pitavi. Mercredi, un anthropologue pour parler d'un écrivain. Jean Jamin sera dans ce studio, il est l'auteur de Faulkner, Le nom, le sol, le sang, aux éditions CNRS. Enfin jeudi, l'écrivain Pierre Bergougnou viendra nous dire pourquoi il n'y a selon lui personne, ou presque, entre Homer et Faulkner. C'était la thèse que bien sûr je caricature de son livre avant Faulkner dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre émission introductive et biographique, c'est avec vous, Jacques Potier. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez collaboré à l'édition en Pléiade des œuvres romanesques de Faulkner, paru en novembre dernier. Et vous êtes l'auteur de l'essai « William Faulkner, essayez de tout dire » que vous avez publié en 2003. Commençons, si vous voulez bien, par un petit exercice, vous qui êtes professeur, un petit exercice d'épellation. Comment écrivez-vous le nom de Faulkner ?
Évidemment, F-A-U-L-K-N-E-R, puisque Faulkner avait rajouté ce U dont il disait qu'il lui venait de son arrière-grand-père, qui était un écrivain. Quand on lui demandait ce qu'il voulait faire quand il était à l'école, il disait qu'il voulait être écrivain comme son arrière-grand-papa.
Parce que sinon, dans la famille Faulkner, avant lui, ça s'écrit F-A.
Oui, il y a une petite. C'est une jolie histoire. C'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il y avait une petite incertitude sur l'orthographe. Mais c'était une façon de souligner qu'effectivement, il avait sa personnalité d'écrivain. Et à partir du moment où il a commencé à écrire des histoires, il a commencé à rajouter un U à son nom.
À partir du moment où il a commencé à écrire des histoires, ça veut dire. En 1918, à l'âge de 21 ans, c'est
exactement,
ça ?
Exactement, oui. C'est-à-dire que les histoires, il a commencé à les raconter à sa maman. Il était bloqué au Canada pour faire une formation d'aviateur dans l'espoir de pouvoir combattre dans la Première Guerre mondiale. Malheureusement, sa formation a été interrompue par la paix.
Quelle tristesse.
Et oui, enfin bon, c'est surtout une grosse perte de temps, puisque après ça, c'était l'époque de la grippe espagnole. Et il a été maintenu en quarantaine au Canada. Et pour se distraire, il a commencé à raconter des histoires.
Et c'est là qu'il rajoute un U. Il y a beaucoup de versions de cette histoire. On dit aussi que c'est la première fois qu'il a envoyé un manuscrit. Il y a eu une faute de frappe et finalement il a dit bon bah on garde le U.
Ça vous semble... c'est difficile à savoir, mais bon, c'est pas très très important. Mais enfin, même à l'époque du Canada, quelquefois il rajoutait un U, quelquefois il l'oubliait. C'était pas encore très stabilisé.
Mmh. Alors vous parlez de l'espoir de pouvoir combattre. Qu'est-ce que ça nous dit de la personnalité de Faulkner qui avait l'espoir de pouvoir combattre ?
Bah, il y avait une espèce de tradition, j'imagine, un peu dans le sud, qui était que l'aventure militaire faisait partie de l'expérience d'un jeune homme à toute génération. Une génération, ça avait été la guerre civile. La génération suivante, c'était la guerre du Mexique, la guerre contre l'Espagne, la guerre de Cuba. Et puis, cette génération-là, c'était la guerre en France.
Donc on n'est pas un homme tant qu'on n'a pas combattu chez les Faulkner.
C'est pas tellement chez les Faulkner, c'était dans l'air du temps, j'imagine. On pourrait plutôt dire ça. Mais bon, c'est aussi une époque où Faulkner, donc 1917, il avait donc 20 ans, il se cherchait un petit peu et c'était l'occasion aussi de découvrir de nouveaux horizons. Donc on est justement au centenaire de cette période.
Et puis, le rajout d'une lettre dans son nom, c'est peut-être anecdotique, mais on peut y voir aussi une certaine admiration, une certaine fascination pour la lettre qui est, dites-vous, pour Faulkner, une icône. Peut-être pas le U en particulier, mais le mot.
Oui, évidemment, ça souligne l'intérêt du mot et de la puissance du verbe. En tout cas, ça peut symboliser ça, même si le petit détail est sans doute assez anecdotique. Mais effectivement, la lettre fait quelque chose, est destinée à faire quelque chose par rapport à la vie, et c'est tout le sens de la littérature.
Alors, on va faire aujourd'hui avec vous le portrait de ce grand écrivain américain. Mais d'abord, je voudrais vous faire entendre le portrait qu'a fait de lui Pierre Michon au micro de Jean Dev en 1997. Il raconte une anecdote qui en dit beaucoup, en tous les cas. C'est ce que vous allez nous dire.
Un jour, le jour d'un anniversaire de sa petite fille qui avait, je ne sais pas moi, 8-10 ans, Il a descendu l'escalier complètement nu, complètement ivre. Et il y avait là des petites filles du sud qui prenaient du thé avec sans doute la maman qui leur disait des comptines, etc. Et Faulkner arrivant là-dedans. Il y a aussi dans Faulkner quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on dit tout ça, on le sait bien tous, d'ailleurs j'ai pas besoin de prendre cette précaution, mais c'est que ça n'était pas Bukowski, c'était en même temps ce petit homme extrêmement élégant, soucieux dans le fond du qu'en dira-t-on et du petit qu'en dira-t-on d'Oxford, Mississippi, et voulant et souhaitant passer pour une sorte de Sartoris d'Oxford, et non pas pour cette peine ou pour de la deuxième génération des Compson. Cette espèce de contraste entre ce côté cravaté et ce côté british qui se donne, et qu'il se donne pas seulement, c'est un bel homme avec ses petites moustaches, et puis sa petite taille qui redresse bien là, et puis cette espèce de monstre alcoolique dont la fille a, dit-on, un souvenir horrifié.
Que retenez-vous de ce portrait, Jacques Potier ?
Alors, je retiens que c'est un grand écrivain, mais c'était un bonhomme sans doute assez insupportable au quotidien et sans doute extrêmement désagréable. On pourrait rajouter l'anecdote aussi qu'il avait dit à sa fille que personne ne se rappelait des enfants de Shakespeare. Donc, pour bien lui signifier à quel point, ma foi, il était un grand écrivain, mais comme bonhomme, c'était quelqu'un qui était pas très agréable.
Et pour le faire mentir, on va citer ici le nom de sa fille pour montrer que finalement on s'en souvient bien des années plus tard. Vous voyez, même vous ne l'avez pas en tête. Il avait peut-être raison finalement, Faulkner. Alors il paraît qu'il écrivait au whisky. C'est vrai ça ?
Oui. Il a toujours beaucoup consommé d'alcool, effectivement, beaucoup de whisky. Et très souvent, il y a une anecdote très, très significative. Une fois qu'il a publié ses premiers romans remarquables, les Bruits et la Fureur, Tandis que j'agonise et Sanctuaire, il avait été invité à une conférence à Charlottesville, en Virginie. Et il avait commencé par expliquer, vous savez, je suis comme un petit chien farouche qui va se cramponner derrière, qui va se rencogner sous la caravane et qui vous jappera après. Donc il faut bien imaginer que je suis comme ça. Et effectivement, quand il est arrivé sur place, première chose qu'il a demandé, c'est où est-ce qu'on pouvait trouver à boire. Donc c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de souffrance mentale, beaucoup de mal-être, et qui combattait ça par le whisky.
Mais on se demande un peu d'où venait ce mal-être, parce que, en tout cas dans la biographie de Faulkner, il n'y a rien de particulièrement tragique.
Ouais, si on veut, c'est-à-dire que si on soulève un petit peu son histoire personnelle, c'était pas une famille où il y avait beaucoup d'amour pour les enfants. Et c'était probablement on a probablement la trace de ça dans le comportement.
Il y a le grand-père, parce que c'était une famille où on aimait les armes. Et peut-être en particulier, c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père d'ailleurs qu'on appelait le colonel.
C'est l'arrière-grand-père qui était le colonel. Le grand-père était le jeune colonel, donc c'était un colonel aussi, mais on appelait colonel. En fait, c'était presque un titre honorifique.
Il avait la gâchette facile, lui, l'arrière-grand-père.
L'arrière-grand-père, oui, il y a eu effectivement plusieurs affaires.
Bon, il n'a jamais été condamné vraiment, il a toujours été
disculpé. Non, on a toujours trouvé que c'était
légitime défense,
voilà, absolument. Ouais,
donc c'est le Far West, en fait, hein, la famille.
Oui, non, mais il y a un côté Far West, effectivement.
Alors, sa biographie, Faulkner l'a lui-même écrite, si l'on peut dire. Vous citez la célèbre note qu'il avait envoyée en 1930 au rédacteur en chef de Forum, qui avait accepté de publier sa nouvelle « Une rose pour Émilie ». Donc, il avait fait lui-même cette note. Je vous en lis, bien que vous la connaissiez par cœur, un extrait. Né mâle et célibataire dès son plus jeune âge dans le Mississippi, quitte l'école après 5 ans passés en 6e, obtient un emploi dans la banque de son grand-père et y découvre les vertus médicinales de l'alcool. Extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de lui, quand même, cette auto-présentation ?
Bon, une capacité à l'autodérision, évidemment, et puis aussi une façon de dire, écoutez, si vous voulez que je vous donne une note biographique, voilà ce que je peux vous donner, et débrouillez-vous avec ça. Mais c'est pas ça qui est important.
Donc la désinvolture.
La désinvolture, absolument.
Alors il disait aussi qu'il avait fait la guerre, ce qui est faux.
Première histoire, ouais. Enfin une des nombreuses premières histoires.
Qu'il était devenu officier du Royal Flying Corps. Pilote dont le premier accident coûta 2000 livres au gouvernement, qui est faux aussi.
Oui, bien sûr. Oui, il a probablement cassé du bois, mais...
Relevé de ses fonctions, renvoyé dans son état natal où sa famille lui avait trouvé un emploi de receveur des postes. Ah, ça c'est peut-être un petit peu vrai.
Ça c'est vrai, oui, effectivement. C'était un emploi qu'il avait obtenu finalement par relation, qui n'était pas un emploi très très... très très glorieux, mais qui quand même permettait de vivre, et qui avait un avantage que j'ai découvert récemment. En fait, on dit toujours que il profitait du fait qu'il était receveur des postes pour ouvrir le courrier et ouvrir notamment tous les livres et revues que se faisait envoyer le personnel de l'université. Mais en plus de ça, ce bureau de poste était attenant à la bibliothèque. Donc il avait accès à la bibliothèque de l'université, ce qui était quand même très commode.
Donc alors il termine en disant, il termine pas tout à fait, mais il dit à la suite des rapports concordants de 2 inspecteurs, j'ai été renvoyé car il m'accusait de jeter à la poubelle tout le courrier arrivé.
C'est probablement assez juste. Voilà. On lui reprochait pas mal de choses.
Mais la dernière phrase de cette auto-présentation, c'est une phrase qui est restée célèbre, qui a été reprise par de nombreux écrivains. Vous la connaissez par cœur, Jacques Potier ?
Alors, je ne me souviens plus dans cette...
Possède sa propre machine à écrire et sait s'en servir.
Oui, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'il a donc tapé des centaines de pages en tapant de 2 doigts sur cette machine... mécanique, bien entendu, donc sans l'aide de l'électricité à l'époque.
On dit souvent que Faulkner était un inculte, un idiot, etc. Pas du tout. Faulkner, évidemment, avait tout lu. Et Joyce, principalement, dont il dit qu'il n'avait pas lu. Et Freud, dont il dit, enfin, en dépit de la petite culotte de Bruy-la-Fureur, il dit dans une interview quelque chose qui est un déni, qui est très drôle, mais qui est faux. Il dit « On parlait beaucoup de Freud quand j'étais à Nouvelle-Orléans, mais je ne l'ai pas lu. Shakespeare ne l'avait pas lu non plus. Je ne crois pas que Melville l'ait lu, et je suis sûr que Moby Dick ne l'avait pas lu. » Voilà. Tout ça, c'est les mots de Faulkner. Faulkner est un être, c'est un renard. C'est un être qui a voulu donner à la postérité l'image d'un abruti. Il me forme, je suis un fermier. Évidemment, non. Faulkner, évidemment, était un intellectuel extrêmement pointu.
C'est la Compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Je suis en compagnie justement de Jacques Potier qui nous parle de Faulkner. Et c'était Pierre Michon qu'on entendait à l'instant évoquant la grande culture de Faulkner que pourtant il dissimulait, Jacques Potier.
Alors ça c'est très très étonnant parce qu'évidemment Faulkner n'était pas un universitaire. Mais par contre il est exact qu'il avait une immense culture du fait qu'il avait lu énormément. Je racontais cette anecdote à propos de l'université et du bureau de poste, mais il lisait à peu près tout ce qui lui passait sous les yeux. Et en plus de ça, il héritait évidemment de la bibliothèque familiale qui avait les grands auteurs du 19e siècle, en tout cas, mais c'était un grand lecteur, et un grand lecteur non seulement de littérature américaine ou anglophone, comme on imagine, mais de littérature en traduction. Donc les Russes, les Français, les Espagnols faisaient partie de son patrimoine.
Vous parlez de la bibliothèque familiale parce que c'était quand même une famille de la bourgeoisie.
Oui.
Ce fameux arrière-grand-père, quand il n'était pas sur les champs de bataille, avait monté quand même une entreprise de chemin de fer.
Oui, alors ça a surtout été développé par le jeune colonel, si je me rappelle bien. Il y avait cette société de chemin de fer qui a été développée parmi les nombreuses sociétés de chemin de fer indépendantes du milieu du 19e siècle. Et que justement, le grand-père de Faulkner a revendu, au moment où son père commençait à s'y intéresser, parce que son père était passionné par les chemins de fer, et malheureusement, il n'a pas pu continuer, puisque son propre père a revendu l'entreprise.
Ah, on sent les frustrations qui commencent à s'accumuler.
Voilà, les frustrations qui s'accumulent dans la famille, et qui des tas de petits dysfonctionnements qui rendent la vie désagréable.
Bon, en tout cas, il y a quand même une bibliothèque, voilà. Et ça c'est bien.
Oui.
Et dans cette bibliothèque, il y a Moby Dick, par exemple. Il avait du nez quand même, William Faulkner,
oui,
parce qu'à l'époque...
Effectivement, Moby Dick, je ne sais plus, Philippe Jaworski connaîtrait certainement mieux quelle était la disponibilité de Moby Dick à l'époque, mais il y a eu de longues périodes où Moby Dick n'était plus disponible. Donc Faulkner fait partie des gens qui, dans les années 10-20, connaissaient la portée de ce grand roman.
Alors, si on avance un petit peu dans sa vie, on arrive à la vingtaine, 27-28 ans, le voilà qui va à la Nouvelle-Orléans. Mmh. Et là, Jacques Potier... c'est tout de même un tournant pour Faulkner. Est-ce qu'il se trouve d'une certaine façon à la Nouvelle-Orléans où il va baigner dans un milieu davantage intellectuel ?
Absolument. La Nouvelle-Orléans, c'est un grand foyer culturel à cette époque, au début du 19e siècle. C'est au milieu d'un sud que certains considèrent comme à peu près un culte. C'est vraiment un endroit où beaucoup d'intellectuels se retrouvent, où il y a un foisonnement intellectuel, où il y a des revues, et où il y a notamment Sherwood Anderson, qui est le grand aîné, qui va lui donner un sérieux coup de pouce dans le début de sa carrière, lui donner l'occasion, c'est à la Nouvelle-Orléans qu'il va avoir aussi l'occasion de commencer à écrire des nouvelles, qui sont des petites vignettes pour commencer, puis qui vont prendre un peu d'ampleur progressivement. Et c'est là qu'il va écrire aussi son premier roman.
Monnaie de singe. Qui parle de la Première Guerre mondiale.
Oui, donc il y a un côté autobiographique, puisque ça commence par le premier paragraphe, on l'avait privé de sa guerre. Donc c'est le détail, effectivement, bien ressenti.
Il aura toute sa vie cette nostalgie pour une guerre qu'il n'aura pas pu faire.
Dans une certaine mesure, bon, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir de la nostalgie pour la guerre, mais s'il y a un roman de tout le corpus qui se passe ailleurs qu'aux États-Unis, c'est bien en France, et c'est la France de la Première Guerre mondiale dans Parabole.
Et c'est d'ailleurs à peu près à cette époque-là aussi où il va faire le voyage en Europe, et voilà. Notamment le voyage en France.
Voilà, alors le voyage en Europe, c'était d'abord, il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup d'écrivains américains venaient en Europe avec d'autant plus de facilité que le dollar avait un cours extrêmement avantageux. Mais il y avait aussi l'intérêt pour ce que représentait culturellement la France. Et Faulkner a passé 5 ou 6 mois... l'automne 1925, si mes souvenirs sont exacts, à Paris, et non seulement à Paris, mais aussi un peu en Italie. Il est arrivé en Italie avant d'arriver à Paris. Et puis, il s'est promené un peu, notamment sur les champs de bataille de la guerre, qui était pas très loin.
Au point de créer quand même une relation privilégiée avec notre pays, qui va durer
oui.
D'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui. Non, et en plus de ça, il y avait une relation artistique, puisque c'est un foyer intellectuel, Paris, mais c'est aussi un foyer pour toute la peinture qui s'y développe. C'est tout le modernisme qu'on peut voir chez les Stein, par exemple.
Il connaissait les Stein ?
Alors, j'ai cherché, mais j'ai jamais eu de preuve vraiment qu'il ait pu être dans... Je pense qu'il a dû avoir l'occasion de visiter le petit musée privé des Stein, rue de Fleurus. Mais tout se passe comme si, c'est-à-dire qu'il parle de Cézanne, il parle de Picasso et de tous les modernistes et les futuristes et les vorticistes de l'époque. Et ça a marqué son écriture.
On va y revenir parce que c'est important, mais je voudrais d'abord vous faire écouter une lettre envoyée depuis Paris à sa mère en 1925 précisément. Voilà.
Chère mère, je déménage aujourd'hui. J'ai une belle chambre à 2 pas du jardin du Luxembourg, où je peux aller m'asseoir pour écrire et regarder les enfants. Dans les jardins, tout est pour les enfants. Les Français aiment leurs enfants d'une façon admirable. Ils les traitent comme des adultes. Ils marchent ensemble dans les rues, un homme ou une femme et un enfant. Et ils parlent et rient comme s'ils étaient du même âge. Hier, j'ai passé la journée au Louvre pour voir la Victoire de Samothrace et la Vénus de Milo, les vrais, et la Mona Lisa, etc. C'était beau. Surtout les toiles plus ou moins modernes, comme Degas, Manet et Chavannes. J'ai aussi été à une exposition très, très moderniste l'autre jour, futuriste et vorticiste. Et j'ai parlé à un peintre, un vrai, qui ne va jamais aux expositions. Il dit que c'est très bien de peindre des choses, mais pour ce qui est de les regarder, il préfère aller au Luxembourg et regarder les enfants qui jouent avec leur bateau. Je suis bien d'accord avec lui.
C'est là qu'on voit aussi Jacques Potier à quel point ce n'était pas juste un paysan du sud des États-Unis. Bien au contraire, il a cette fibre en lui et cette fibre artistique, et cet œil aussi, puisqu'il regarde, vous le disiez, la révolution moderniste qui, à Paris, est en train de prendre sous toutes ses formes, à la fois picturale, mais aussi, vous parliez des Stein, qui en plus d'être collectionneur, était aussi passionné de littérature et écrivain. Et du coup, il se forme quand même auprès de ce creuset parisien, même s'il y reste peu de temps.
Et oui, je crois que, enfin, mon sentiment est qu'il trouve effectivement dans les techniques picturales de ses contemporains des techniques qu'il va arriver à transposer dans la littérature. On parlait de futurisme dans la lettre que vous avez fait entendre là. Il y a un tableau de Umberto Boccioni qui s'appelle « Le bruit de la rue entre dans la maison ». Et on retrouve notamment dans un roman qu'il va écrire très peu de temps après, qui est « Tandis que j'agonise », mais on trouverait probablement des exemples aussi dans « Le bruit et la fureur », des scènes où Faulkner fait sentir justement que les circonstances qui entourent le personnage l'entourent, le saturent l'espace autour de lui ou d'elle, et il rend cette sensation d'étouffement. Cette sensation d'étouffement qui va être très très importante, puisque finalement, à mon avis, ce que Faulkner veut vraiment traduire, c'est la détresse de la vie humaine, où en fait on ne contrôle pas ce qui vous arrive. C'est-à-dire que les événements arrivent et on se trouve plongé dedans.
Mmh. Et pour lui, le fond imposait la forme.
Oui.
Et ce que vous dites l'illustre parfaitement. Mmh. C'est formellement un peu difficile, Faulkner, mais c'est le fond qui appelle cette forme un peu difficile.
Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'on va avoir justement, même au niveau de la construction des phrases ou de l'emploi des formes verbales, des constructions qui font entendre justement que le sujet, le héros, se retrouve objet de l'action et non pas sujet de l'action.
Vous avez cité Tandis que j'agonise, c'est 57 sections.
Oui.
Tandis que j'agonise, inégale à la fois par le style et aussi par la longueur, puisque la plus courte tient en quelques mots, je la cite, « Ma mère est un poisson ».
Oui.
Ça aussi, c'est moderniste, cubiste, fauve peut-être.
Il y a un effet de surprise, et puis il y a un effet, tout simplement, il ne faut pas le nier, comique, parce qu'on insiste beaucoup... On a surtout beaucoup insisté en France sur le côté tragique de Faulkner, mais il y a aussi des aspects comiques, et ça s'en est un.
Hmm. Vous dites également que d'une certaine manière, on peut retrouver les pleureuses dans Tandis que j'agonise, qui ressembleraient aux demoiselles d'Avignon. Et là, vous filez la métaphore du cubisme. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Picasso qui peint les demoiselles d'Avignon après avoir observé l'art nègre et Faulkner qui écrit Tandis que j'agonise, par exemple, après avoir été bercé par les contes des esclaves, les contes noirs? Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Oui, c'est certainement... Enfin, les influences sur un écrivain sont innombrables, et certainement Faulkner avait une très grande perméabilité à toute cette culture qui l'entourait.
En tout cas, c'est ce qu'Edouard Glissant semblait penser. On l'écoute.
Oh, good morning, children, how you feeling, shine? I don't want no trouble, I want my whole back time.
Il a aussi écouté les conteurs noirs. Il n'a pas seulement écouté les récits de la guerre de sécession, il a aussi écouté les contes racontés par des vieux nègres sur les plantations, etc. Et au moment où ils allaient à la chasse, il y avait toujours... c'est comme ça dans toute cette région. Chez moi, c'est comme ça. Quand j'étais jeune, enfant... il y avait toujours sur la plantation où mon père travaillait, il y avait toujours des travailleurs agricoles qui, à 7 heures le soir, de 7 heures à 8 heures par exemple, racontaient des contes animaliers, des contes symboliques de la situation, des contes. Et Faulkner, sans l'ombre de doute, a écouté ces contes-là.
Je vous rassure, Jacques Potier, c'est pas Edouard Glissant qui chantait, c'était Johnny Limour. J'ai vu que vous aviez l'air un peu surpris. Alors cette voix si particulière des romans de Faulkner, elle vient de la tradition orale, de son Mississippi natal, vous croyez?
Oui, je crois que ça a été très très important en fait. Et les tout premiers romans, là, les deux premiers romans qui ont été écrits, Monnaie de singe et Moustique, était avant qu'il s'aperçoive de tout ce qu'il pouvait tirer comme expressivité et comme chaleur humaine de cette, de cette utilisation des parliers locaux, des parliers dialectaux, sans trop pousser non plus vers la caricature, puisque on parlait d'Edouard Glissant, parlait très justement de ce qu'il a retenu des folkloristes qui ont, sont penchés sur la tradition noire, mais qui eux se délectaient d'ailleurs, comme ça a pu être le cas aussi dans les, chez les folkloristes européens, de la façon dont la langue était déformée et en faisait finalement le sujet. Mais chez Faulkner, c'est beaucoup moins, ça s'impose beaucoup moins dans le, dans la retranscription de la langue noire, mais ça donne une couleur.
Mais en effet, il assistait à ses veillées, vous croyez qu'il écoutait les contes?
Bah, de toute façon, d'abord, il avait la fréquentation, une fréquentation quotidienne dans son enfance des Noirs, puisque les grandes familles ou les moins grandes familles ou les moyennement grandes familles avaient des gouvernantes noires. Et les enfants étaient avec la gouvernante noire. Donc, en fait, ce contact, il était absolument quotidien.
Alors, il y a évidemment la tradition orale dans la voix écrite de Faulkner. Mais il n'y a pas que ça, parce que Faulkner, au départ, c'est quelqu'un qui se pense comme un poète.
Oui. Oui, donc une attention extrême au langage.
Par exemple, à un moment donné, le modèle pour lui, c'est Mallarmé.
Oui, effectivement. Donc, ça faisait partie de cet intérêt pour la grande tradition française du 19e siècle, que l'intérêt pour Baudelaire, l'intérêt pour Mallarmé. À l'université, il étudiait la littérature française et il y avait un intérêt pour ça.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garry.